Vous écoutez
Montréal par la racine.
Feuilles au vent partout autour de nous. Le studio est complet et on a encore pas mal de matière à vous proposer. D'ailleurs, cette nouvelle chronique de Patrick de Bortoli. Félix Leclerc dirait « Les grands labours dorment sous la gelée », mais ça t'empêche pas de penser à ce qui se passe avec les sols quand la nature voudra bien nous les révéler et se réveiller. Dans ta dernière chronique, tu étais venu d'ailleurs nous parler de cette vie des sols. Aujourd'hui, tu viens nous présenter des petites choses qu'on peut faire pour inoculer ou maintenir la vie dans nos plates-bandes et potagers, Patrick.
Effectivement. Aujourd'hui, j'ai pensé vous introduire à quelques pratiques très accessibles qui contribueront à faire naître la vie dans vos sols ou encore à la garder en bonne santé. Mais avant même d'aborder ce qu'on doit faire au jardin pour entretenir la vie microbienne, je vais commencer par vous dire ce qu'il faut éviter de faire.
Oui, parce qu'évidemment, il y a des pratiques à proscrire au jardin. C'est déjà une première étape, comprendre ça.
Oui, effectivement. Il y a certaines pratiques à proscrire, du moins si on souhaite avoir de la vie dans le sol.
Ce qui est habituellement est souhaitable.
Qui est très souhaitable, si on a bien compris la dernière chronique que j'ai faite
le mois
dernier.
Oui, on a bien écouté.
Donc, la première est d'éviter d'appliquer des pesticides, des fongicides, des herbicides, etc. dans nos cultures pour des raisons bien évidentes. Hein. Tous ces produits qui finissent par tue la vie dans le sol, alors que nous, on souhaite l'encourager. De même, il faut éviter d'appliquer des engrais synthétiques. Pourquoi? Parce que les engrais synthétiques sont essentiellement des sels. Et à court et à moyen terme, ces sels finissent par déshydrater les micro-organismes et tuer la vie dans le sol.
Oui, c'est ça. Tu dis que les engrais synthétiques, ça tue la vie dans le sol. Et pourtant, les plantes semblent pousser beaucoup mieux quand on en applique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce sol?
Il faut d'abord comprendre que les micro-organismes, pour vivre, ont besoin en moyenne de 20 parts de carbone pour une part d'azote. C'est-à-dire que notre sol doit être en mesure de leur procurer pour chaque apport d'azote 20 apports de carbone que l'on retrouve principalement dans la matière organique du sol. Donc, à chaque fois qu'on injecte de l'engrais synthétique azoté, par exemple, en dose concentrée, les micro-organismes font la fête. Ils bouffent tout ce qu'ils peuvent en azote et 20 fois plus en matière organique et la plante pousse, pousse, pousse. L'excédent d'azote, et il y en a toujours plus que ce que les micro-organismes et les plantes peuvent consommer, et donc lessivé dans la nappe phréatique, et la matière organique du sol, elle s'épuise bonnement. En peu de temps, la nourriture première des micro-organismes, soit cette matière organique, s'épuise, ainsi que la vie.
On entre donc dans un cycle où plus on applique de ces produits, plus la terre s'épuise, il faut en appliquer davantage.
Voilà,
on est dans un cycle infini qui va jamais faire naître rien. Là,
tout à fait.
Donc, tu veux maintenant nous parler d'une autre technique très répandue et qui est également à proscrire, soit le labour de la terre. Ça peut peut-être surprendre plus de gens.
Oui, effectivement. Mais je tiens tout d'abord à vous parler des choses à proscrire parce que c'est souvent des pratiques très répandues. Ils travaillent la terre en est un de ceux-là. On laboure traditionnellement la terre dans nos plates-bandes et potagers pour deux raisons. La première, selon moi, repose sur une erreur historique. Au 18e siècle, un certain dénommé Jethro Tull croyait que les plantes ingéraient littéralement les particules du sol pour y prendre les éléments nutritifs nécessaires à leur croissance. Il a donc pensé à construire un semoir muni d'une houe pour pulvériser les particules du sol pour faciliter l'ingestion par les racines. Il a eu une influence considérable sur les pratiques horticoles de son époque et nous continuons aujourd'hui encore à pulvériser nos sols alors que nous savons pertinemment bien que les plantes n'ingèrent pas des particules de sol pour se nourrir. La deuxième raison, et une de celles qui a participé à faire croître la popularité des pratiques de Tull, est que ça fait pousser plus vite les plantes. Pourquoi? Parce que en retournant la terre, on l'aère. Et quand on aère bien le sol, et surtout au temps d'un seul coup, mais ça fait une autre fête qui commence pour la vie microbienne. La vie microbienne, alors, va s'activer à extraire les éléments nutritifs du sol et en grande quantité pour rendre accessible aux plantes qui poussent et qui poussent et qui poussent, mais la première année. Mais ces éléments sont extraits en, plus abondamment ce que les plantes peuvent consommer. Et la matière organique s'appauvrit également, ce qui fait qu'au cours des années, avec les pluies, avec les arrosages, les éléments nutritifs du sol sont encore lessivés. Et sans compter, bien entendu, qu'à chaque fois que nous labourons nos sols, nous détruisons l'équilibre de la vie souterraine que nous avons exploré dans la dernière chronique et qui se doit de se reconstituer à chaque année.
Oui. Bien, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, tu vas pouvoir nous présenter un peu rapidement là, certaines techniques, cette fois, qui seront bénéfiques pour nos sols.
Oui. Bien, déjà d'abord, si votre sol n'a pas été empoisonné par des pesticides ou épuisé par l'apport abusif d'engrais synthétiques pendant plusieurs années, sachez qu'il y a de la vie dans vos sols, aussi faiblarde soit-elle. Maintenant, il s'agit de la nourrir et de la faire fructifier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un apport d'engrais, de compost et non d'engrais, dans nos sols. Et dans un sol avec peu ou pas de vie, on peut inoculer de la vie microbienne en appliquant 1 à 2 cm de compost de bonne qualité partout où l'on veut cultiver, à l'automne de préférence. Et répéter le procédé chaque année. Le printemps suivant, vous allez déjà être en mesure de noter une amélioration en termes de la présence de la vie dans le sol, mais vous allez également voir les bénéfices de cette vie, comme on a vu aussi dans la dernière chronique, décompaction du sol, meilleure aération, meilleure rétention d'eau et des éléments nutritifs. Il est aussi possible, et très facilement, d'ajouter des champignons mycorhiziens dans nos sols.
Oui, on y avait fait référence en parlant de dépollution ou de façon de régler le problème de pollution dans le sol. On se procure ça où, des champignons mycorhiziens? On avait proposé quelqu'un qui était venu en parler à l'émission, mais
oui,
vas-y.
Oui, c'est ça, très facilement. On peut s'en procurer dans nos centres de jardin. Puis il s'agira à la plantation des végétaux d'en enrober la masse racinaire avec une ou deux cuillerées de ce mélange. Puis ça pour une différence significative au niveau de la croissance et de la santé générale de vos plantes, ça c'est clair, vous allez remarquer. Et moi, en plus des champignons mycorhiziens, ma méthode préférée est d'appliquer du paillis sur mes surfaces de culture et de composter sur place. C'est-à-dire que la première année, j'applique à l'automne de préférence, mais ça peut être au printemps, une bonne couche de terreau jusqu'à 20 cm de paillis en surface, sans l'intégrer dans le sol pour éviter des carences en azote. Ça peut être de la paille, des feuilles mortes déchiquetées ou encore, comme chez moi, des copeaux de bois de feuillus déchiquetés. En plus, puis tout au cours de la saison, et même en fin de saison, je laisse tomber au sol tous les résidus verts de mes cultures. C'est-à-dire que pendant l'été, pendant l'entretien régulier, je coupe et je fais tomber les résidus au sol. Et en fin de saison, je coupe, je laisse au sol et je laisse la racine dans la terre. C'est la technique du compost sur place ou la technique du couper et laisser tomber, le chop and drop.
Patrick, je te laisse juste nous donner un petit avant-goût de la prochaine chronique, puisque le temps file.
D'accord, parfait. Donc, juste une dernière chose pour plugger ma prochaine chronique sur les plantes utiles au jardin. Je vais mentionner les plantes qu'on peut utiliser pour maintenir la vie saine de notre sol. On peut parler, par exemple, d'engrais verts comme le trèfle blanc, la luzerne, l'orge que l'on peut semer en fin de saison afin de ne pas laisser nu notre sol et même durant la saison pour servir de couvre-sol. Les engrais verts peuvent aussi protéger notre sol contre le martelage de la pluie, qui est le premier élément qui compacte le sol, empêcher les aventices de pousser, garder l'humidité du sol. Donc, faire un mélange d'une dizaine de variétés peut contribuer à bâtir l'humus de la matière organique en général, fixer l'azote du sol et...
On s'éloigne du micro, pardon. Là, Patrick.
En fait, on prévoit t'éloigner du micro, le temps file.
En fait, je vous laisse, si vous pouvez consulter ma page Facebook,
Fermier
Antique. Je vais mettre quelques titres de livres pour avoir des références supplémentaires pour pouvoir approfondir ces techniques.
Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui célèbre son 70e anniversaire en 2015.